Chapitre 6. Une nichée. On peut classer les familles nombreuses en deux catégories. Premièrement, celles dont les membres s'admirent mutuellement. Deuxièmement, celles dont les membres se détestent mutuellement. Je préfère la seconde catégorie. Les querelles s'y passent en famille et elle a un mérite que n'a pas la première. Elle sait reconnaître parfois les qualités des autres. Les familles vouées à l'admiration mutuelle de leurs membres jouissent sans exception d'un orgueil insupportable. S'il vous arrive de dire que Shakespeare est le type du génie, une des filles ne manquera pas de vous faire comprendre que vous auriez mieux choisi en prenant pour exemple son cher papa. Promenez-vous en compagnie d'un membre masculin de cette même famille et dites d'une femme qui passe « Elle est charmante ». Votre naïveté fait sourire votre compagnon qui se demande si vous avez jamais vu sa sœur en toilette de bal. Dans cette deuxième catégorie, on ne peut se séparer sans s'écrire tous les jours. On vous lit des passages de lettres en vous disant « Trouvez-nous donc un écrivain de cette force ». On vous parle d'affaires personnelles comme si cela vous intéressait. On s'y lance des plaisanteries familières par-dessus votre tête et on s'étonne si vous ne riez pas. Dans l'intimité, les sœurs s'assiedent sur les genoux des frères, les maris demandent devant vous des détails sur les indispositions ou les maladies de leur chère moitié, aussi tranquillement que s'ils étaient chez eux. Quand nous serons arrivés à un degré de civilisation plus élevé, l'État devrait fournir des cages pour ces êtres insupportables et faire apposer au coin des rues un écriteau ainsi conçu. Se méfier du numéro 12. Une famille atteinte d'admiration mutuelle y perche. J'appris de Lucille que le nombreux clan des Finch appartenait à la deuxième catégorie. À quelques exceptions près, les membres de cette famille ne se parlaient même pas et il y en avait qui vivaient séparés depuis des années sans avoir une seule fois confié à la poste de Sa Majesté britannique le plus léger témoignage d'affection. Monsieur Finch avait épousé en première noce une mademoiselle Batchford. Cette jeune personne n'avait plus qu'un frère et une sœur qui se montrèrent fort hostiles au choix qu'elle avait fait. Ils déclarèrent dans cette circonstance que les Finch étaient d'un rang inférieur à celui des Batchford. L'union projetée eut lieu nonobstant, mais le frère et la sœur refusèrent d'assister à la cérémonie du mariage. Première brouille. Lucille fut le fruit de cette union. Le frère aîné de Finch, fâché avec sa famille et qui ne voyait plus que son frère cadet, proposa, avec une charité toute chrétienne, que l'on se réconcilia devant le berceau de l'enfant. Les Batchford acceptèrent avec grandeur d'âme. Première réconciliation. Le temps s'écoula. Finch, desservant d'une pauvre cure, situé près d'une grande ville manufacturière, se trouva un jour pressé d'argent et prit la liberté de prier son beau-frère de lui en prêter. Batchford, qui était riche, trouva tout naturellement qu'une pareille demande était une insulte. Mademoiselle Batchford prit fait et cause pour son frère. Seconde brouille. Après un nouvel intervalle, Madame Finch mourut. Le frère aîné de Finch, toujours à couteau tiré avec le reste de sa famille, fit une seconde proposition, toujours pleine de charité chrétienne, celle de se serrer la main et de tout oublier sur la tombe de l'épouse défunte. Les Batchford, plongés dans l'affliction, acceptèrent encore. Seconde réconciliation. Dans la suite, Finch, veuf et n'ayant qu'une fille, fit la connaissance d'un habitant de la ville voisine de sa cure. Cet homme appartenait à la secte des Baptistes et faisait de la cordonnerie et du radicalisme. Il avait, de même que Finch, perdu sa femme et n'avait qu'une fille unique. Finch, toujours dans la gêne, passa de bonne grâce sur ce que les opinions, la religion, la profession de son futur beau-père avaient de désagréable et épousa la fille avec une dot de 3 000 livres. Ce mariage lui aliéna à tout jamais les Batchford et son propre frère, celui qui aimait tant à jouer le rôle de conciliateur. Cet excellent homme, qui avait rompu avec le reste de sa famille, refusa, à partir de ce moment même, de parler à son frère le recteur. Finch se trouva donc abandonné par tout le monde. C'est en vain que sa féconde épouse donna au pacificateur l'occasion d'effectuer des réconciliations, non plus devant un seul berceau, mais à côté de deux à la fois. Tout ce qu'on put obtenir du frère aîné, ce fut que Lucile, tout à fait perdue parmi la nombreuse progéniture du recteur, pourrait aller visiter, à certaines époques de l'année, son oncle et sa tante. Cette pauvre enfant, douée d'une bonne vue à sa naissance, fut atteinte vers un an d'une cécité incurable. Autrement, c'était l'image de sa mère. Le vieil oncle, qui était resté garçon, et sa vieille sœur, qui était restée fille, conçurent une grande affection pour l'enfant. Notre nièce comble nos plus chères espérances. C'est une vraie Batchford, elle n'a rien des Finch, disait-il. Le père de Lucile promit au rang de recteur de Dymchurch les laisser faire. Attendez un peu, disait-il, et tout cela nous amènera de l'argent. Et vraiment, Finch avait besoin d'argent. Songez à la manière dont Madame Finch s'entendait à garnir le berceau d'un enfant une fois par an. Le recteur s'en était même fatigué et s'était écrié « On se trompe en prétendant que tout en ce monde a une fin. La fécondité de Madame Finch n'a pas de limite. » Lucile avait grandi. Ce n'était plus une enfant. Elle avait 20 ans lorsqu'elle hérita de l'argent que son père attendait depuis longtemps. L'oncle mourut garçon. Il partagea sa fortune entre sa sœur et sa nièce. Lucile devait avoir, en atteignant sa majorité, 1500 livres de revenus annuels, à certaines conditions énumérées dans le testament. La première supprimait pour Finch toute prétention, légale ou non, de toucher à 1 liard de cet argent. La seconde portait que Lucile devait, tant qu'elle resterait demoiselle, quitter chaque année la maison de son père pour passer 3 mois dans la maison de sa vieille tante. Le testament donnait, du reste, en termes clairs et nets, les raisons de cette condition. « Je meurs comme j'ai vécu, » écrivait l'oncle. « Tory est membre de la Haute Église. Le legs que je fais à ma nièce ne sera valable qu'à la condition qu'à certaines époques de l'année, on la soustraira aux tendances radicales et dissidentes de sa famille pour la confier à une Anglaise bien née, ayant éducation et naissance, professant les bons principes, etc., etc. » Vous imaginez-vous ce que dut ressentir Finch à la lecture de ce paragraphe? Il se leva et, en vrai anglais qu'il était, il prononça un discours. « Mesdames et messieurs, dit-il, j'avoue que j'appartiens au parti libéral et que les parents de ma femme sont des dissidents. Eh bien, pour vous montrer quels sont les principes que j'enseigne à ma famille, permettez-moi de vous informer que j'octroie à ma fille permission pleine et entière d'accepter le legs et que je pardonne à son oncle. » Sur ce, il sortit, donnant le bras à sa fille. Il en avait entendu assez pour s'assurer que Lucie l'aurait, tant qu'elle resterait demoiselle, la jouissance pleine et entière de ce revenu de 1500 livres. Avant même d'être de retour à Dymchurch, Finch avait manigancé un petit arrangement par lequel, tout en faisant à sa fille une position indépendante dans le presbytère, il empochait tous les ans 500 livres à titre de contribution aux frais généraux de la maison. Je regrettais vivement, en apprenant ces détails, que Finch ne suis pas venu s'adjoindre à mon pauvre Pratolungo et à moi dans l'Amérique du Sud. Avec un libéral de cette trempe pour nous conseiller, nous aurions pu faire triompher la cause sacrée de la liberté sans qu'il nous en coûtât 1 liard. L'aile antique de la maison, depuis longtemps inhabitée, fut réparée et meublée, aux frais de Lucile, bien entendu. Les travaux se trouvèrent terminés un peu avant le jour où la jeune fille, ayant 21 ans, atteignait sa majorité. Elle paya un premier acompte sur les frais généraux et se trouva admise, ni plus ni moins qu'une simple locataire, dans la maison paternelle. Pour vous faire comprendre toute l'habileté de Finch, j'ajouterai que Lucile avait montré, en grandissant, une répugnance de plus en plus marquée pour la vie de famille. Le bruit et le tumulte des enfants étaient, dans l'état où elle se trouvait, un tourment continuel. Sa belle-mère n'avait pour elle rien de sympathique. Il en était à peu près de même de l'auteur de ses jours. Lucile savait compatir, il est vrai, à l'état habituel de gêne où il se trouvait, et montrer les ménagements et le respect qu'une fille doit à son père, mais quant à ressentir pour lui une vénération et une affection sincères, inutile d'en parler. Ses plus heureux moments étaient ceux qu'elle passait auprès de sa tante et de son oncle, et elle avait chaque année prolongé de plus en plus son séjour chez les Batchford. Si le révérend Finch, faisant appel au bon sentiment de sa fille, n'avait eu l'habileté de lui assurer une position indépendante, tout en la gardant sous son toit, elle serait allée, en atteignant sa majorité, demeurer tout à fait chez son oncle, ou bien elle se fût créée un nouvel intérieur. Le plus clair de tout ceci, c'était que le recteur, tout en recevant annuellement ses 500 livres, continuait à surveiller sa fille. Détail important lorsqu'on considère combien un mariage eût contrecarré les intérêts de Finch. Telle était la singulière position qu'occupait cette intéressante jeune fille dans la maison paternelle lorsque j'arrivais à Dymchurch. Jugez quelle fut ma perplexité quand je me demandais quelle était la ligne de conduite à suivre à l'égard de notre inconnue. Je ne voyais dans Lucille qu'une pauvre jeune fille ayant besoin, dans l'isolement où la tenait son triste état, de l'appui de tout le monde et n'ayant cependant ni une mère ni une sœur auprès desquelles elle eût pu trouver protection et conseil. J'avais, il est vrai, produit sur elle à première vue une impression favorable et nous nous étions senties prises tout d'abord d'amitié l'une pour l'autre. Je l'avais accompagnée dans sa promenade du soir, ignorant ce qui se passait dans son esprit, et c'était par accident, en poussant notre inconnu à me parler en sa présence, que j'avais décuplé l'intérêt qu'elle ressentait pour lui. Puis, dans un moment de surexcitation nerveuse et faute de savoir à qui faire ses confidences, la pauvre aveugle m'avait révélé le secret de son cœur. Que me restait-il à faire ? Si Lucille avait été dans les mêmes conditions que la plupart des jeunes filles, l'aventure eût été tout simplement ridicule. Une impitoyable fatalité force l'esprit de l'aveugle à se replier sur lui-même. Il vit dans un monde ténébreux dont nous n'avons pas d'idée et séparé sans retour de celui où nous nous agitons par un espace, hélas, infranchissable. Quelle consolation pouvait donner à Lucille ce monde inconnu pour elle ? Aucune. Elle avait ce triste privilège de pouvoir concentrer incessamment sa pensée sur l'être idéal de ses rêves. La seule impression produite sur elle par le timbre sympathique de la voix de l'inconnu devenait le thème sur lequel s'exerçait librement toute la force de son imagination. Quelle situation ! Je frémis quand j'y pense. Je sais bien qu'il ne serait pas difficile de l'envisager sous un tout autre jour, et de rire de la folie d'une jeune fille dont l'imagination travaille au sujet d'un inconnu dont elle s'était prise rien qu'en l'entendant parler. Mais prenez en considération que cette jeune fille est aveugle, qu'elle vit dans un monde imaginaire, qu'elle n'a de plus personne qui puisse exercer sur son esprit une saine influence, et je vous défie de ne point vous sentir saisi de pitié. Moi-même, qui appartiens à cette nation française si insouciante, si gouailleuse, je vous avouerai qu'en me peignant le soir devant mon miroir, je me trouvais bien attristé et très vieilli. Je jetai un coup d'œil sur mon lit. « Bah ! » disais-je, « à quoi bon me coucher ?» Lucille, étant parfaitement maîtresse de ses actions, pouvait fort bien aller faire une autre promenade, et cette fois toute seule, du côté des sables, et se mettre ainsi à la merci d'un inconnu qui pouvait, pour tout ce que j'en savais, n'être qu'un malhonnête homme ou un intrigant. Mais quelle était ma position auprès de Lucille ? Je n'étais après tout que sa dame de compagnie, et je n'avais dans cette qualité aucun droit à me mêler de ses affaires. Cependant, si quelque chose de fâcheux arrivait, on ne manquerait pas de m'en rendre responsable. Il est si facile de dire à son semblable qu'il aurait dû empêcher telle ou telle chose. En pareille circonstance, à qui devrais-je m'adresser ? La bonne vieille nourrice Zilla, n'étant après tout qu'une domestique, je n'avais pour toute ressource que la belle-mère, cette dame lymphatique, avec son bébé et son roman. La fallait-il consulter ? Non, c'eût été le comble de l'absurdité. Le père me restait. Mais d'après ce que j'avais entendu raconter, je n'avais guère confiance dans une intervention efficace de la part du révérend Finch dans une affaire de cette nature. Mais comme après tout, c'était le père de Lucille, je crus bon de sonder le terrain. J'allais donc à la rencontre de Zilla, dont j'avais entendu le pas dans le corridor, afin de lui demander pourquoi je n'avais pas encore vu le maître de la maison. « Pour une bonne raison, me répondit-elle. Il est allé voir un ami à Brighton. » C'était un jeudi. On attendait son retour pour le jour où il préparait son sermon, c'est-à-dire le samedi. Je m'en retournai à ma chambre d'assez mauvaise humeur. C'est en pareil moment que mon esprit se réveille avec une étonnante facilité. J'eus une nouvelle inspiration. Puisque Dubourg s'est permis de m'adresser la parole, j'irai au sable et j'userai du même procédé. Je ne sais si cette résolution me fut uniquement inspirée par l'intérêt que je ressentais pour Lucille ou si la curiosité s'y mêla à mon insu. Le fait est que j'allais me coucher sans faire de plus longues réflexions.